Nous reprenons notre propos au sujet de l'histoire comparée des religions et de l'anthropologie religieuse. J'avais parlé la dernière fois des éléments communs à toutes les religions qui peuvent faire l'objet d'un enseignement laïque, c'est-à-dire neutre par rapport aux croyances de chaque religion. Et j'avais indiqué que, par exemple, on peut étudier le phénomène des pèlerinages, le phénomène du jeûne aussi, car le jeûne existe aussi dans d'autres religions, et le phénomène du sacré. On étudie aussi, pour les comparaisons, le phénomène de la révélation. Mais ça, c'est déjà un peu plus restreint, parce que les trois religions monothéistes insistent beaucoup sur l'idée que Dieu a parlé aux hommes, et il a parlé aux hommes par l'intermédiaire des prophètes. Nous ne trouvons pas exactement cette même notion dans d'autres religions. Mais c'est très intéressant, justement, de comparer la façon dont le judaïsme, le christianisme et l'islam traitent de la révélation, et pourquoi il y a des différences. Et là aussi, si nous apportons des éclaircissements sur la notion de révélation telle que la traitent les trois religions, eh bien, nous comprendrons mieux le phénomène de la religion tel qu'il fonctionne, tel qu'il a fonctionné au départ, dans le judaïsme, puis dans le christianisme, puis dans l'islam, et tel qu'il fonctionne encore aujourd'hui. Et nous comprenons le rôle de la théologie chez chacune des communautés, parce que chaque communauté développe une théorie de la révélation qui est différente des deux autres, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a une communication très difficile entre les trois religions sur ce phénomène qui est le même en soi. C'est toujours un Dieu, il y a un Dieu qui parle et il utilise la médiation du prophète pour faire parvenir sa parole aux hommes. Donc tout cela, c'est la même référence, le même mécanisme, mais l'interprétation de la révélation et le statut de la révélation est différent. De même, comparer des religions toujours, on s'attarde à comprendre le discours religieux. Quels sont les outils qu'utilise le discours religieux pour enseigner les croyances fondamentales propres à chaque religion? Et là, nous avons par exemple une donnée qui est à la fois linguistique et anthropologique, qui est le récit mythique. Le récit mythique, c'est ce que le Coran appelle Al-Qasas. Le Coran insiste beaucoup sur l'importance de ce qu'il appelle Al-Qasas, c'est-à-dire le récit mythique. C'est la traduction exacte. Il y en a qui traduisent le conte. Non, le conte, c'est trop simple. Il y a des contes pour enfants, tandis que là, c'est un récit mythique, et le récit mythique a une valeur particulière dans le discours religieux, parce que c'est par lui que la parole de Dieu prend une dimension très grande pour l'explication de la valeur spirituelle de la parole de Dieu et pour donner des fondements spirituels, moraux, à l'enseignement de la parole de Dieu. Ce point-là est très important. L'histoire comparée des religions est obligée de faire appel à l'interrogation anthropologique. Voilà un mot, j'en ai dit, je crois, déjà quelques mots dans mes interventions précédentes, mais à propos de l'enseignement de l'anthropologie religieuse à l'école, je voudrais ajouter que cette discipline, qui est une discipline scientifique très importante, n'est pas encore bien enseignée, même dans les pays européens. Voilà pourquoi il est très difficile de faire comprendre aujourd'hui à un croyant courant qui a fait peu d'études, et même s'il a fait des études, s'il est bachelier par exemple, il n'a pas nécessairement entendu parler durant toutes ses études au lycée de l'anthropologie et des différences qu'il y a entre l'anthropologie, l'ethnologie et l'ethnographie. Je n'ai pas le temps ici de m'appesantir sur ces disciplines, mais je voudrais souligner l'importance qu'il y a à enseigner cette discipline à part entière dans les lycées et collèges, parce que nous voyons dans tous les pays d'Europe, depuis les années 60, 70, nous voyons un grand nombre d'élèves qui viennent de toutes les cultures du monde. Dans une même classe, on peut avoir des élèves qui viennent de 10, 20, 30 pays différents. Je connais des lycées où on a compté 60 origines différentes dans une même classe. C'est ce qu'on appelle le multiculturalisme des sociétés modernes démocratiques. Ce multiculturalisme se trouve maintenant dans tous les pays d'Europe. Et bien entendu, les États-Unis, le Canada sont de grands pays d'émigration, et là aussi, nous trouvons énormément de diversité culturelle, et la gestion de cette diversité culturelle à l'école ne peut se faire que par l'enseignement de l'anthropologie. Parce que l'anthropologie s'intéresse à toutes les cultures du monde. Elle étudie toutes les cultures du monde et elle compare ces cultures. Et elle donne par conséquent aux élèves la possibilité de faire des voyages culturels. Comme lorsque nous voyageons, on fait du tourisme, mais le tourisme n'est pas suffisant parce qu'on regarde les choses de l'extérieur. Tandis qu'à l'école, nous analysons les choses, nous prenons le temps de les expliquer et, par exemple, nous prenons le temps d'expliquer les récits mythiques qui se trouvent dans la sourate 18 dans le Coran. Car dans la sourate 18 dans le Coran, nous avons trois grands récits qui ne sont pas particuliers à l'islam. Le récit des sept dormants d'Éphèse, l'Ulkev, les gens de la caverne. Et la caverne est un vieux mythe qui a déjà été utilisé dans un dialogue de Platon très célèbre. Et donc c'est un thème à la fois littéraire, philosophique et religieux, spirituel. Et c'est un thème qui est très répandu dans le Proche-Orient, bien avant l'islam, et nous le retrouvons dans le Coran sous forme d'un récit des sept dormants d'Éphèse qui réfère à la persécution des chrétiens par l'empereur Dioclétien au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et ces martyrs chrétiens ont laissé un souvenir dans la croyance chrétienne. Ils ont été célébrés et il y a ce récit qui a été perpétué à l'intérieur du christianisme, puis au-delà du christianisme. Et ce récit a été recueilli au temps du Coran, parce qu'il y avait des chrétiens qui en Arabie, en Syrie, en Palestine, et donc il a été recueilli pour son exemplarité de gens qui, par amour pour Dieu, ont accepté d'être les martyrs d'un pouvoir païen qui n'admettait pas encore le christianisme. Et voilà donc un exemple d'un récit extrêmement important que nous pouvons étudier en allant, en passant d'une religion à l'autre. Et ce récit de cette dormante d'Éphèse, on le trouve en Inde maintenant, on le trouve en France. Et Louis Massignon, le grand islamologue Louis Massignon, a beaucoup étudié ce récit et il a découvert en Bretagne un lieu où ce récit est perpétué depuis très longtemps et il a refondé un lieu de pèlerinage pour les chrétiens et les musulmans pour aller justement célébrer la mémoire de cette dormante d'Éphèse. Voilà un exemple extrêmement lumineux qui explique la manière dont l'anthropologie ouvre les esprits à une connaissance généreuse, tolérante, et surtout ouvre à une culture extrêmement large. Je donnerai d'autres exemples la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais prendre pour exemple le jeûne du Ramadan, Saum ou Siyam, on dit en arabe, pour illustrer cet enseignement dont nous avons parlé de l'histoire comparée des religions et de l'anthropologie religieuse. D'abord, je voudrais que ce mois de Ramadan soit utilisé par un grand nombre de musulmans pour consacrer leurs loisirs, pour ceux du moins qui peuvent avoir des loisirs, à faire des lectures dans le sens que j'ai indiqué, sur l'histoire des religions et l'anthropologie religieuse. Car pendant le Ramadan, dans toute la tradition islamique, mais aussi dans la tradition juive, parce que les juifs aussi ont leur jeûne, et les chrétiens ont leur jeûne, mais comme je l'ai expliqué, ce sont des jeûnes différents, les modalités sont différentes, mais l'idée du jeûne est la même, là aussi. L'idée du jeûne, c'est de cultiver une discipline du corps, une discipline par rapport à la nourriture, par rapport à la boisson, par rapport à ce qui est considéré comme des plaisirs qui peuvent devenir des passions. C'est ainsi que l'interprétaient les religieux, les grands spirituels de la période médiévale. Par exemple, le grand auteur que tout le monde connaît, Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, pas le Ghazali de notre temps, qui est mort récemment, Mohamed Al-Ghazali, l'Égyptien, mais Abu Hamid Al-Ghazali, qui a écrit un livre extrêmement important, de grande spiritualité, qui s'appelle Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences de la religion, Ulumuddin. Et Ulumuddin, c'est la connaissance, justement, de la façon dont le musulman doit approfondir sa vie intérieure, sa vie spirituelle intérieure, pendant qu'il fait la prière, pendant qu'il fait le pèlerinage, et bien entendu, pendant le mois du Ramadan. Et il a un grand chapitre sur le Ramadan qui s'appelle Asrar al-Sawm, Kitab Asrar al-Sawm, c'est-à-dire le chapitre qui traite des significations secrètes, Asrar, Sir. Sir, c'est ce qui ne se dévoile pas, mais qui est important, qui contient des significations importantes. Et dans ce livre-là, Al-Ghazali explique comment on peut profiter de la période de Ramadan, des loisirs que l'on peut avoir pendant cette période, non seulement pendant la journée, quand on est en état de jeûne, mais aussi après le fitr, c'est-à-dire après al-marb, après avoir rompu le jeûne, on mange légèrement, pas comme on le fait aujourd'hui, où l'on fait des festins qui durent jusqu'à 2 heures du matin, et voilà déjà une grande rupture dans la pratique religieuse, une rupture qui montre que les religions évoluent. Les religions ne restent jamais les mêmes. Les religions se plient aux conditions de vie changeantes des hommes en société. Et cette rupture-là, il faut la regarder aujourd'hui, l'étudier et connaître les conséquences de cette rupture. La façon dont les musulmans vivent le Ramadan depuis, disons, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, seconde moitié du XXe siècle, est tout à fait différente de la façon dont ils le vivaient déjà dans la première moitié du XXe siècle. Et ensuite, si on remonte dans le temps, évidemment, on trouve des maîtres de la spiritualité qui maintenaient parmi ce souci d'utiliser son temps pour élargir sa connaissance des secrets, des valeurs secrètes, c'est-à-dire difficiles à connaître, que le musulman doit faire revivre pendant cette période-là. Alors, dans notre société moderne, et puisque, comme je viens de le dire, l'islam est en train de muter, comme toutes les religions, est en train de introduire des pratiques tout à fait nouvelles, tout en conservant la forme extérieure du rituel du Ramadan, ou comme il conserve le rituel de la prière, eh bien, et il y a des livres à lire qui ne sont pas nécessairement des livres comme celui que je viens de citer, Kitab Asrar al-Sawm de Ghazali, il y en a beaucoup d'autres, car la façon de parler du jeûne, du pèlerinage, de la prière aujourd'hui est tout à fait différente, et dont un certain nombre de musulmans continuent d'en parler. Par exemple, dans les zaouias, il y a encore aujourd'hui des zaouias, c'est-à-dire des lieux d'enseignement avec un cheikh tariqa, que des musulmans vont écouter pendant le mois de Ramadan, et là, ils sauvegardent un peu de cette spiritualité qui remonte jusqu'au Moyen-Âge. Mais ça reste une minorité par rapport à la grande majorité de musulmans qui sont pratiquement des musulmans sécularisés, qui vivent d'une manière fortement laïcisée. Simplement, pendant le mois de Ramadan, il y a une pression sociale telle que il est difficile, même pour des musulmans qui ne sont pas tellement motivés pour faire le jeûne du Ramadan, ben, ils le font quand même pour se conformer à la règle générale qui est observée dans une société musulmane. Le cœur est l'organe spirituel par lequel l'homme peut effectivement entrer en communication avec ce Dieu qu'il adore, en lequel il croit. Et le cœur, c'est à la fois la raison et l'affectivité. La raison est l'amour. La raison est l'émotion. C'est un organe psychologique particulier. Et le cœur, ce n'est pas pour... Là aussi, voilà, religion comparée, le cœur occupe la même place chez les pères de l'Église qui enseignent aux chrétiens que le cœur est le lieu d'intériorisation de la spiritualité, de la vie religieuse. Et une vie religieuse qui a aussi une part de rationalité, une part d'intelligibilité, de connaissance par conséquent. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire, comme on le voit, sur non seulement le jeûne, mais d'autres exemples que l'on peut prendre. Nous y reviendrons la prochaine fois. Je dois exprimer ma reconnaissance à Radio Orient de m'avoir permis de m'exprimer pendant le mois de Ramadan et introduire, peut-être pour la première fois, dans un grand média, une approche de la religion qui, tout en respectant les croyances de tous, tout en respectant la manière dont chaque musulman vit son jeûne de Ramadan, essaye d'introduire une approche scientifique et aussi une réflexion sur ce que signifie la religion aujourd'hui et ce qu'elle a signifié depuis son existence il y a 15 siècles. Et ceci est très important et devrait se multiplier, à mon avis, dans tous les médias. Et on a pu juger, dans tout ce que j'ai dit, qu'on doit apprendre beaucoup de choses que, malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas l'occasion d'apprendre parce que, justement, les médias ne les aident pas dans ce sens. Oui, je suis donc Mohamed Harkoun, professeur d'histoire de la pensée islamique à la Sorbonne, et j'ai publié un certain nombre d'ouvrages qui traitent de l'histoire de la pensée islamique, mais d'une pensée islamique que j'ouvre toujours à d'autres courants de pensée, aussi bien religieux que philosophiques et théologiques. Bonjour tout le monde. Nous reprenons notre hadith, c'est-à-dire causerie, et je voudrais donner deux autres exemples de ce que j'ai appelé le récit mythique pour faire comprendre l'importance de l'enseignement anthropologique des religions. Toujours dans cette sourate 18, sourate Al-Kahf, il y a deux autres récits qui ont la même valeur et qui se sont répandus dans le monde entier et qui se retrouvent également dans le Coran. Le deuxième récit dans cette sourate, c'est celui de la légende de Gilgamesh. La légende de Gilgamesh remonte très loin dans le passé, en Mésopotamie. Elle s'est répandue dans le Proche-Orient, mais elle a traversé également toutes les cultures. Il s'agit du héros qui va à la recherche de la source de vie. Et là, nous trouvons deux héros dans le récit coranique, dont l'un s'appelle Moussa et l'autre Al-Khidr, le fameux, on l'appelle prophète, Al-Khidr, mais justement, les anciens commentateurs, déjà, ont été étonnés de trouver un Moïse là-dedans, dans ce récit, qui n'est pas conforme au Moïse prophète de la Bible. Parce que le récit mythique se différencie de l'histoire en ce sens qu'il utilise des outils, des matériaux qui viennent de la mémoire très ancienne pour fabriquer un récit nouveau, pour donner des leçons nouvelles dans un contexte culturel nouveau. C'est ce que fait le Coran. Parce que le Coran s'exprime en arabe, il s'adresse à une population arabe et il veut définir le monothéisme selon le Coran. Donc ce Moussa-là et ce Khidr-là sont des noms qui ont été donnés à ces deux héros pour ne pas reprendre exactement les héros tels que la légende de Gilgamesh elle-même les a utilisés, parce qu'il faut donner un cachet cohérent à ce que le Coran raconte. Troisième exemple, toujours dans la sourate 19, c'est encore un grand récit mythique, très célèbre également, qui a circulé dans toute la Méditerranée, c'est le roman d'Alexandre, que le Coran appelle Dhulqarnayn. Et Alexandre le Grand, c'est le grand conquérant grec, l'élève d'Aristote, qui a répandu la culture grecque de son temps, déjà, dans la Méditerranée orientale. Et donc, il a laissé, comme tous les grands héros, un grand souvenir dans les mémoires populaires. Et ce souvenir a été transmis sous la forme d'un récit que l'on appelle le roman d'Alexandre. Alors, ces trois exemples ne sont pas isolés. Il y en a un grand nombre comme cela. Par exemple, la sourate Yusuf, sourate de Joseph. Le personnage de Joseph, depuis la Bible, a connu, le récit de Joseph a connu plusieurs versions qui ont circulé dans le Proche-Orient et que nous retrouvons là aussi dans le Coran. Alors, voilà un exemple d'enseignement de l'anthropologie religieuse, par conséquent, et nous constatons que lorsqu'on présente ces récits-là, comme je viens de le faire trop brièvement, bien sûr, tous les auditeurs, qu'ils soient athées, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient hindouistes, qu'ils ne croient à rien, mais qu'ils aient la curiosité de découvrir les autres culements, eh bien, tous écoutent ces explications sans dire qu'ils sont endoctrinés, ils sont conditionnés pour croire à une seule religion sous sa forme orthodoxe qui est enseignée dans les mosquées, dans les synagogues, dans les églises, dans les temples bouddhistes ou autres. Et voilà donc la différence. J'espère que les auditeurs maintenant ont une idée de ce que représente un enseignement moderne des religions pour répondre encore une fois aux curiosités du public de notre temps et aussi pour modifier l'enseignement de la religion de chaque communauté qui est enseigné d'une façon dogmatique, c'est-à-dire qui n'admet pas cette ouverture aux autres cultures, cette ouverture aux outils communs qu'utilisent toutes les religions pour construire leur système de croyance et de non-croyance. Je viens de prononcer deux expressions sur lesquelles je voudrais insister parce que ça fait partie de cet enseignement des religions comparées. Qu'est-ce qu'une religion ? Les sociologues et les historiens disent que chaque religion est un système de croyance et de non-croyance. Donc il y a des croyances positives. Par exemple, le musulman doit croire à ce que dit la shahada. Je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'autre divinité que Dieu, et je témoigne que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Cette formulation-là fait que l'islam a une définition particulière du monothéisme, et c'est une définition positive. J'affirme des propositions positives. J'affirme que Mohammed est bien l'envoyé de Dieu. Et donc, là, c'est une croyance positive. Je crois que le Coran est la parole même de Dieu, c'est une croyance positive. Mais il y a la non-croyance. Je ne crois pas que Jésus, fils de Marie, a été crucifié. Ça, c'est une croyance négative. Je crois quelque chose, mais négativement. Pourquoi négativement ? Parce que si je crois que Jésus a été crucifié, eh bien, l'islam perd sa spécificité. Alors, c'est très important, vous voyez, comment on construit une religion. La religion se construit par la différenciation. Et cette différenciation confère à chaque religion son statut particulier, ses contenus de croyances particulières qui s'affirment par des croyances négatives et par des croyances positives. Et en disant cela, je ne prends aucune position, je ne dis pas que ça c'est mieux que ça, j'explique comment ça se passe, le mécanisme de formation d'une nouvelle croyance. Parce que l'islam, par exemple, qui a émergé 6 siècles après le christianisme et davantage de siècles encore après le judaïsme, avait en face de lui ces systèmes de croyance et de non-croyance. Ça s'est passé de la même façon entre le christianisme et le judaïsme. Lorsque Jésus de Nazareth a parlé pour la première fois, il a parlé en tant que juif de l'intérieur de la synagogue, il parlait à des juifs, il s'inscrivait dans la tradition juive, biblique, de la Bible hébraïque, mais il a dit des choses, là aussi, qui introduisent des croyances et des non-croyances, pour faire un nouveau départ de code de la croyance. Alors, je pense que, avec ces indications, nous avons compris l'importance, encore une fois, de l'introduction de l'enseignement à l'école, un enseignement scientifique à l'école de l'histoire comparée des religions et de l'anthropologie religieuse. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire, comme on le voit, sur non seulement le jeûne, mais d'autres exemples que l'on peut prendre. Nous y reviendrons la prochaine fois. Bonjour tout le monde. J'espère que nos émissions jusqu'à présent vous ont intéressé et que surtout elles vous ont donné de la matière pour réfléchir et pour enrichir le mois de Ramadan avec la quête d'une connaissance approfondie de tout ce qui concerne l'islam comme religion et comme culture. Et aussi, au-delà de la connaissance de l'islam comme religion, enrichir l'insertion de l'islam dans la période historique très difficile que nous sommes en train de vivre, en particulier depuis le 11 septembre. En effet, le 11 septembre pose des questions extrêmement difficiles à traiter, surtout de la part des musulmans, puisque c'est l'islam qui est interrogé dans le monde entier. Et le monde entier s'interroge, se demande ce que signifie cette religion et pourquoi cette religion semble engagée dans une lutte qui apparaît au monde entier comme étant une lutte d'essence politique, éloigné par conséquent de la religion. Je voudrais consacrer 2 ou 3 entretiens au sujet de la réaction des musulmans devant le 11 septembre. Voici maintenant plus d'un an que la confrontation très dure entre le monde musulman, entre l'islam comme religion et culture, d'une part, et l'Occident comme aussi un grand lieu de civilisation et de culture, comment les musulmans vivent cette confrontation et quelle réponse apportent-ils d'abord aux questions qui se posent à l'islam lui-même à l'intérieur de la communauté musulmane et à l'intérieur des sociétés qui se réclament de l'islam partout dans le monde. Jusqu'à présent, ce que nous avons pu constater, c'est que les musulmans s'attachent à montrer ce qu'ils appellent le vrai visage de l'islam, pour le distinguer de ce visage qualifié de violent et même de terroriste. Le terrorisme est là, on ne peut pas le nier. Et ce vrai visage, pour le montrer, il faut des connaissances de l'islam. L'islam a des valeurs importantes qu'il enseigne, valeurs morales, valeurs spirituelles. Elles existent, bien sûr, nul ne peut le nier. Depuis la deuxième partie de ce qui a été le XXe siècle, et davantage encore depuis les années 90, lorsque la guerre froide a été terminée et que l'Occident prend en charge la totalité de l'histoire et semble vouloir contrôler l'histoire de l'ensemble des sociétés. Et l'islam, les musulmans, les sociétés qui se rattachent à l'islam n'acceptent pas ce contrôle géopolitique et ce contrôle économique, ce contrôle monétaire et aussi ce contrôle culturel et intellectuel que l'Occident semble vouloir exercer. Pour illustrer ces réponses telles qu'elles devraient être développées désormais dans les sociétés musulmanes, je voudrais prendre l'exemple des deux élections qui viennent d'avoir lieu dans deux pays musulmans. Les élections au Maroc, à la fin du mois de septembre, et les élections en Turquie, qui viennent d'avoir lieu. Ces deux élections sont intéressantes parce que elles ont permis à des mouvements politiques, des partis politiques, qui tous les deux se nomment le Parti de la Justice et du Développement. Au Maroc, comme en Turquie, les deux partis ont choisi le même nom, la même devise, Justice et Développement. Toutes les sociétés tendent vers la conquête de plus de justice. Toutes les sociétés tendent vers la conquête d'un développement intégré, d'un développement qui englobe à la fois le développement économique, le développement social, le développement culturel, le développement de l'éducation, le développement sur tous les secteurs qui permettent à la société d'avancer d'un même pas, au lieu de faire le développement tel qu'on l'a conçu dans les années 60-70, où l'on mettait l'accent sur le développement économique pour brûler les étapes et rattraper les sociétés qu'on appelait à ce moment-là développées, et on a négligé, il faut bien le dire, le développement économique. Le développement que l'on demande aujourd'hui, c'est un développement intégré qui englobe tous les secteurs que je viens de nommer. Donc c'est très important que ces deux partis qui ont remporté des victoires réelles au Maroc, la victoire est moins spectaculaire que celle qu'a remporté le Parti de la Justice et du Développement en Turquie. Ces résultats électoraux sont importants d'abord pour l'intégration à l'intérieur des sociétés de partis qui se réclament de l'islam, mais qui portent l'accent sur des problèmes réels, qui sont des problèmes de justice sociale et des problèmes de développement, comme je viens de l'indiquer. Donc il y a là une démarche de laïcisation de la politique, même si ces partis-là se déclarent explicitement comme non laïcs. Le fait qu'ils mettent au premier rang des problèmes concrets de construction d'une société juste et de construction d'une société développée dans tous ces secteurs montre qu'il y a une sensibilité à traiter des problèmes concrets sans nécessairement mettre en avant des exigences religieuses proprement dites. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Deuxième chose importante, c'est l'intégration dans la vie politique de toute une catégorie de la population qui jusqu'à présent s'est trouvée mise à l'écart de la représentation politique démocratique. Ceci permet par conséquent d'éviter que une partie importante de la société soit obligée de jouer le jeu démocratique des élections, jouer le jeu de la responsabilité politique en accédant aux instances supérieures de l'action politique et de la vie politique, comme le Parlement qui est l'instance de législation où se décident les lois qui gèrent la vie politique et sociale et culturelle du pays. C'est donc là un acte extrêmement positif puisque ces partis vont délibérer de façon égale, chacun faisant valoir ses conceptions des avancées politiques dans la société, avec d'autres partis qui, eux, comme le parti socialiste, par exemple, au Maroc, le parti laïque en Turquie, ils vont échanger leurs idées, leurs positions, et par cet échange-là, il va se dégager progressivement une conscience civique fondée sur le libre débat. La démocratie se construit par le libre débat. Et c'est par là, par conséquent, qu'il faut aller vers la démocratie et il faut absolument encourager cette tendance-là. Je reviendrai la prochaine fois sur les autres aspects que posent ces élections pour montrer comment l'islam, aujourd'hui, peut répondre aux crises nombreuses ouvertes par le 11 septembre. Bonjour. Nous reprenons donc notre analyse des deux exemples d'élections qui ont eu lieu, comme nous l'avons dit, au Maroc et en Turquie récemment. Et nous avions vu les aspects positifs des gains électoraux réalisés par les deux partis de la justice et du développement dans les deux pays. J'ajoute d'autres aspects positifs. Le fait qu'il y ait débat au Parlement va rejaillir nécessairement sur l'ensemble de la société puisque la presse rapporte les débats au Parlement et va permettre aux citoyens d'entrer eux aussi en débat. Et l'important ici, c'est la portée éducative pour l'ensemble de la société du débat autour de la solution politique apportée par des laïcs et de les solutions politiques apportées par des partis politiques qui ont participé librement aux élections, mais qui se réfèrent davantage à un modèle religieux islamique. Il est vital pour que le débat entre les deux approches politiques, entre les deux attitudes politiques, se déploie de la façon la plus libre possible, encore une fois, pour permettre aux sociétés d'évoluer, de s'émanciper, exactement comme ont évolué et se sont émancipées les sociétés européennes depuis le XVIIIe siècle, en pratiquant exactement les mêmes débats au Parlement et dans les sociétés. Il y a quelque chose de beaucoup plus important, car la victoire remportée par ces deux partis qui se réfèrent explicitement à l'islam et qui cependant jouent le jeu, je le répète, de la démocratie et de la liberté du débat, a exercé déjà sur l'opinion internationale une influence extrêmement positive. Pour la première fois, il y a une perception d'un parti qui se réclame de l'islam et qui semble converti à une autre méthode que celle de la violence terroriste pour faire avancer les sociétés. Et ce qu'il y a encore de plus important, c'est que la victoire du parti de la justice et du développement en Turquie a amené le chef de ce parti à demander immédiatement l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, l'admission de la Turquie dans l'Union européenne. Ça, c'est un événement politique qu'il faut saluer et qu'il faut avoir la lucidité politique de gérer. Je dis lucidité politique parce que le président Giscard d'Estaing a fait connaître son avis de façon très abrupte et qui a étonné beaucoup. et aussi suscité une discussion extrêmement importante du côté européen, en disant que si la Turquie entrait dans l'Union européenne, ce serait la fin de la construction de l'Union européenne. Il l'a dit d'une manière aussi explicite et aussi brutale que cela. On ne peut ignorer que l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne pose des problèmes extrêmement importants d'intégration d'une société qui reste quand même une société à référence islamique, où la majorité de la population reste liée à l'islam. Or, cet islam, justement, pose des problèmes par rapport, non pas aux sociétés européennes en tant que laïques, mais il pose des problèmes de compréhension moderne des fonctions de la religion aujourd'hui dans les sociétés, après les évolutions historiques, les évolutions scientifiques qui ont eu lieu en Europe depuis le XVIIIe siècle et auxquelles l'islam comme religion et comme pensée n'a pas encore participé. Et l'on sait que le fait de faire partie de l'Union européenne ouvre les frontières non seulement aux marchandises, mais à la circulation des personnes. Et l'on sait qu'il y a un problème par conséquent d'équilibre démographique, et puisque la Turquie est peuplée de 66 millions d'habitants, et que si ces 66 millions d'habitants avaient la liberté de circuler, lorsqu'on pense aux pressions des immigrations dans les pays occidentaux depuis les années 80-90, on voit très bien les problèmes que se posent et que doit se poser effectivement l'Union européenne si la Turquie venait effectivement à être admise dans l'Union européenne. C'est ici qu'il faut avoir du courage politique et de la lucidité politique. Parce que si cette entrée doit avoir lieu, elle sera nécessairement négociée. Et on peut par conséquent doser, étudier les étapes de cette entrée pour que la Turquie devienne membre à part entière de l'Union européenne et soit un élément dynamique qui contribuerait à enrichir encore davantage l'Union européenne. Et au-delà du cas particulier de la Turquie, il y a la force de l'exemple que donnerait à la fois l'Union européenne en montrant la dynamique politique de la construction européenne qui s'ouvre jusqu'à intégrer un pays dont effectivement les références culturelles et religieuses sont en décalage, pas tellement différentes, mais en décalage important par rapport à ce que nous connaissons en Europe, le fait que cette dynamique puisse englober donc un pays musulman ne manquerait pas de susciter une dynamique encore plus forte dans l'ensemble de l'espace méditerranéen dont nous avons déjà parlé, qui permettrait un travail politique, culturel, d'intégration de l'ensemble des peuples, des sociétés qui se réfèrent à l'espace méditerranéen, à l'histoire de l'espace méditerranéen, aux cultures méditerranéennes, qui recevront bien sûr une attention à la fois de la part des chercheurs scientifiques, de la part des éducateurs, car il faudra se mettre au travail pour, comme nous l'avons dit, changer les programmes d'enseignement, en particulier de la discipline que l'on appelle l'histoire, pour pouvoir préparer les citoyens des deux côtés à entrer dans cette page d'histoire absolument nouvelle, exaltante, dynamisante et qui ouvre des horizons d'espérance formidables pour changer de façon significative et même révolutionnaire la notion même d'intégration politique des sociétés dans notre 21e siècle. Ce sera en effet les grandes options, les grandes possibilités ouvertes pour ce 20e siècle, d'écrire cette page d'histoire entièrement nouvelle, entièrement différente de celle que nous avons eue jusqu'à présent. Je reviendrai encore sur cet aspect parce que, comme on le voit, il est absolument décisif et il faut prendre des positions très nettes, lucides et critiques sur ce problème tel qu'il nous est posé. Bonjour. Poursuivons notre conversation, qui j'espère est instructive pour tous, et j'essaye de faire en sorte qu'elle soit instructive et qu'elle ouvre des possibilités de travail pour les jeunes, pour qu'ils s'engagent dans cette direction, qui est extrêmement importante, parce que c'est une direction qui relève du travail de l'esprit, qui relève du travail de la raison, de l'intelligence, et qui, pour la première fois, va utiliser des outils scientifiques pour approfondir la connaissance de la pensée islamique et approfondir par conséquent les possibilités d'insertion de la pensée islamique dans le mouvement général de la pensée mondiale et de la pensée scientifique telle qu'elle s'élabore dans le monde entier par les contributions des chercheurs scientifiques. Je reviens à la question de la théologie. Pour dire que tout le travail fait par de grands théologiens qui ont créé des écoles différentes, comme l'école de Maturidi, s'appelle Maturidisme. Il y a eu de très riches débats théologiques entre des écoles différentes, parce que la théologie n'est pas une science réduite à une seule école. C'est nécessairement un ensemble de problèmes, comme les attributs de Dieu, par exemple, comme la création du monde, comme la prédestination, comme les contenus de la foi, à quelles conditions la foi est valable ou n'est pas valable. Et bref, il y a encore beaucoup d'autres problèmes. Ce sont là des débats très difficiles qui donnent nécessairement lieu à des divergences, à des débats entre les écoles. Et ce qui caractérise les trois premiers siècles de l'Égir, c'est que c'était une période d'options ouvertes pour les théologiens et les juristes pour construire librement et développer librement leurs opinions à partir de leur lecture du texte coranique, à partir de leur lecture des textes du hadith, pour les interpréter et développer leur théorie, leur position théologique sur des problèmes extrêmement importants. Un de ces problèmes qui a suscité un grand dynamisme intellectuel et un grand pluralisme doctrinal dans la pensée islamique à ce moment-là est le fameux problème du Coran créé ou incréé. Je ne vais pas m'étendre sur ce problème. Je voudrais simplement dire que ceux qui veulent s'y intéresser peuvent se reporter à l'ouvrage de Van Hess qui expose cela d'une manière extrêmement détaillée et très intéressante et très vivante. Cette période des trois siècles, c'est la période des options ouvertes, c'est-à-dire des interprétations possibles du texte coranique où les lectures d'un certain nombre de versets étaient aussi ouverte, c'est-à-dire on pouvait lire un verset de façon différente, avec des voyelles différentes qui changent le sens du verset. Et les juristes, les fuqaha et les théologiens pouvaient donc enrichir leur discussion avec ces possibilités ouvertes qu'offraient encore les textes sacrés. Et à partir du 4e siècle de l'Hégire, ces options ouvertes vont se rétrécir, vont devenir de plus en plus limitées, parce que, avec l'intervention de plus en plus nette du pouvoir politique dans le domaine théologique, il se constitue ce qu'on appelle des écoles orthodoxes. Qui dit orthodoxie dit en face hétérodoxie, c'est-à-dire que nous avons une interprétation de l'islam qui va être déclarée authentique, orthodoxe, c'est-à-dire qui délivre et enseigne l'opinion droite, l'opinion vraie sur l'interprétation des textes et sur la loi. Donc nous allons de plus en plus nous diriger vers une école monolithique qui va restreindre les discussions, restreindre les débats. Et nous allons ainsi nous acheminer vers ce qu'on appelle la répétition scolastique, c'est-à-dire d'une seule école, qui va abandonner le travail théologique tel qu'il s'était déployé dans les trois premiers siècles de l'Égypte. Et cet appauvrissement de la réflexion théologique, effectivement, va s'aggraver par un autre appauvrissement. Parce que dans les trois premiers siècles de l'Égypte, il y avait aussi la philosophie, à côté de la théologie, qui s'est épanouie et qui a été pratiquée par un grand nombre de penseurs qui ont écrit et pensé, philosophé en langue arabe. Et il y avait des liens, il y avait des interactions entre les théologiens et les philosophes. Cette interaction est bénéfique parce qu'elle a enrichi les débats, elle a apporté de nouvelles idées et elle a fait progresser les idées. C'est par le pluralisme que l'on avance. Bref, c'est une page d'histoire de la pensée islamique qui, malheureusement, va se perdre de plus en plus à partir du XIe siècle. Et aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette phase de lutte nationale pour les libérations que nous avons déjà évoquée, eh bien, l'idéologie politique de combat pour les libérations et l'idéologie politique de combat pour les constructions nationales ont tellement politisé les débats qu'il n'est plus question du tout de débats théologiques et il n'est plus question du tout des débats sur la construction du droit comme il y en avait entre les grands fondateurs du droit comme Abu Hanifa, comme Malik ibn Anas, comme Ibn Hanbal, comme l'Aouza'i et comme Ja'far al-Sadiq pour les chiites, etc. Donc, on voit là une page d'histoire qui permet de rejoindre intellectuellement, scientifiquement, culturellement les grands débats qui, en Europe, ont abouti à l'institution de la démocratie telle que nous l'observons. Et c'est parce qu'il y a ce décalage intellectuel au-delà des différences politiques. Il y a en profondeur des décalages intellectuels dans la manière de traiter la religion, dans les outils intellectuels et les méthodes qu'on emploie pour traiter la religion. Et ce sont ces décalages au niveau de la vie intellectuelle et par conséquent au niveau de la signification même des textes religieux, mais aussi des textes philosophiques qui ont leur mot à dire sur la religion, et aujourd'hui des sciences sociales qui disent beaucoup de choses sur la religion, c'est tout cela qui crée la distance que les Européens, évidemment, ne peuvent pas ignorer lorsque la Turquie ou le Maroc frappent à la porte de l'Union Européenne. Bonjour tout le monde, nous reprenons nos explorations au sujet de l'entrée possible de la Turquie dans l'Union européenne et de sa participation à une très grande et nouvelle dynamique politique, culturelle et sociale. Le président Giscard d'Estaing, dans sa prise de position au sujet de la Turquie, a évoqué un autre exemple qui est celui du Maroc. C'est pour cela que j'ai choisi ces deux pays-là. En effet, Hassan II, déjà de son vivant, avait frappé à la porte de l'Union européenne et voulait présenter la candidature du Maroc pour entrer dans l'Union européenne. En effet, le Maroc présente lui aussi des aspects de modernisation et des acquis culturels et son appartenance à l'espace méditerranéen et même atlantique est bien connue. Et avec une politique appropriée, là aussi, il est possible d'envisager, pour les mêmes raisons que nous avons vues pour la Turquie, une entrée de ce pays-là dans l'Union européenne. Évidemment, dès qu'on évoque le Maroc, on peut évoquer aussi la Tunisie, qui, elle aussi, a eu des élites politiques, des élites culturelles, fortement acquises aux idées modernes de la gestion laïque de la société et en même temps du respect, bien sûr, de tout ce qui concerne la vie religieuse, comme cela se fait dans les démocraties européennes. Donc, ça déclenche effectivement une très grande dynamique. Et pour l'instant, les Européens, voyant par ailleurs grandir la menace terroriste à travers le monde. Nous sommes dans un moment historique où parler, comme j'essaye de le faire, d'une possibilité qui ouvre de très larges horizons d'espérance à des peuples qui ont besoin de cette espérance politique, il y a là des contradictions évidentes et difficiles à gérer. Voilà pourquoi il faut absolument donner à l'Union européenne des gages, des preuves de l'engagement des sociétés musulmanes, l'engagement des directions politiques des États dans ces sociétés-là, pour montrer que l'islam fait une mutation qui est d'ordre intellectuel, qui est d'ordre culturel, pour faire des sauts vers cette modernité qui est en train de naître à grande vitesse dans la construction de l'Union européenne, et montrer donc de la part des sociétés musulmanes qu'il y a des forces sociales, politiques et culturelles qui sont capables de s'inscrire dans cette dynamique. Comment faire cela ? C'est l'autre grand point que je voulais évoquer. Et pour cela, je choisis de parler de deux ouvrages que j'ai présentés à l'Institut du Monde Arabe. Il s'agit de deux ouvrages écrits, l'un par un islamologue allemand qui s'appelle Joseph Van Hesse, professeur à l'université de Tübingen, et l'autre écrit par un Français, Jean-Louis de Prémar, qui est professeur à l'université de Provence. J'ai présenté ces deux livres devant un public très nombreux et très chaleureux à l'Institut du Monde Arabe. Chaleureux parce qu'il a entendu parler, justement, de ces possibilités pour l'islam de faire, pour la première fois de son histoire, des sauts importants pour s'inscrire dans la dynamique de ce qu'on appelle la modernité et la production moderne de l'histoire des sociétés. Pourquoi ces deux livres ? Parce que ces deux livres apportent des connaissances d'abord, des connaissances d'ordre scientifique. Joseph Van Hesse a écrit un gros ouvrage qui comprend 6 gros volumes de plus de 1500 pages. C'est l'œuvre d'une vie. Cet ouvrage s'intitule « Théologie et société dans les 3 premiers siècles de l'Égypte », c'est-à-dire dans cette période cruciale que les historiens appellent la période de formation de l'islam comme doctrine religieuse, de l'islam comme construction d'une théologie et d'une loi, d'un droit pour gérer la cité. C'est dans les 3 premiers siècles de l'Égypte que se sont construits en effet les grands corpus de la croyance musulmane, le corpus coranique, le corpus des traditions prophétiques, le corpus aussi de la charia, dite aussi fiqh, c'est-à-dire le droit positif. Le processus de construction de ces corpus a pris justement tout ce temps long, de 3 siècles au moins, et même de 4 siècles, pour arriver à avoir une loi religieuse avec des codes entièrement élaborés par des juristes, fuqaha, pour avoir des sources à la fois de la croyance construite par les théologiens sous le nom de Usul al-Din, mais aussi on donne le nom à la théologie de Ilm al-Kalam, c'est-à-dire la science du verbe de Dieu, la science de la parole même de Dieu. Car la parole de Dieu exige des efforts particuliers de connaissance, d'explication, et d'une connaissance fondée sur le travail de la raison critique. C'est à cela que sert la théologie. Voici donc un livre qui, malheureusement, est écrit en langue allemande. Mais ce livre écrit en langue allemande nous apporte une richesse scientifique considérable qui est liée à la grande tradition allemande de la méthode philologique de lecture critique des textes anciens pour écrire l'histoire des idées, l'histoire intellectuelle des sociétés, comme on l'a déjà fait en Europe pour les grands textes de la pensée gréco-romaine depuis la Renaissance, mais aussi pour les grands textes religieux de la Bible hébraïque et de la Bible protestante après la réforme protestante, et également des évangiles. Autrement dit, nous sommes là devant un champ de travail, un champ de connaissances, pour lequel nous avons déjà l'exemple de ce qui a été fait en Europe pour deux religions, le judaïsme et le christianisme, pour le christianisme plus que pour le judaïsme, évidemment. Et ce travail n'est pas encore fait pour l'histoire de la pensée islamique. Et voilà donc un grand spécialiste qui a passé toute sa vie à étudier, à déchiffrer des manuscrits qui ne sont pas encore édités, et à lire les grands textes de l'histoire de la théologie et du droit, comme les grands textes d'Al-Ash'ari, les grands textes de Razali, mais les grands textes des grands penseurs mu'tazilites du 2e et du 3e siècle, de l'Égir. Et il y a là une somme sans équivalent dans aucune œuvre scientifique produite en langue arabe, en langue persane, en langue turque, en langue ourdou, en langue indonésienne, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les langues islamiques. Nous y reviendrons parce que je tiens à faire connaître cet aspect du travail qui va permettre aux sociétés musulmanes, aux mouvements politiques qui, tout en se réclamant de l'islam, veulent entrer dans la modernité en participant à la construction de l'Union européenne.